Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Grâce Amzati Masanzi.
Des cas de tueries sont signalés presque chaque jour à Bukavu au sud Kivu depuis l'occupation de la ville par les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Ce dimanche, la population de la commune de Kadutu s'est réveillée sous le choc après le meurtre d'un jeune garçon la nuit dernière. En signe de protestation, les habitants ont défilé dans les rues avec le corps de la victime. Devoir de redevabilité, les ministres provinciaux du Tanganyika présentent publiquement les actions réalisées 6 mois après leur entrée en fonction. Des détails dans ce journal. La situation sécuritaire dans les territoires des Djouganitouri reste marquée par les affrontements récurrents entre les troupes de l'armée ougandaise et la milice Codeco dans la région de Fataki. Ces conflits armés exacerbent les tensions entre certaines communautés locales. Nous en parlons avec notre invité Michel Meta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI. Bonjour. La ville de Bukavu au sud Kivu continue d'enregistrer des cas de tueries nocturnes dans différents quartiers. 3 personnes ont été tuées dans moins de 48 heures, tantôt par balle, tantôt par vindicte populaire dans les communes de Kadutu et Ibanda. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Ce dimanche, la population du quartier Nyamugo dans la commune de Kadutu s'est réveillée sous le choc à la suite du meurtre la nuit d'un jeune garçon sur son chemin de retour à domicile. La population a manifesté avec le corps dans la rue. Des tirs de sommation ont dispersé les manifestants et le corps de la victime conduit à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu, selon la chef de quartier. Toujours dans la même nuit de samedi à dimanche, une autre personne, présumée voleur, a été lynchée sur l'avenue Rosizi au quartier Ndendere, dans la commune d'Ubanda. Son corps a été brûlé en plein air. Et la veille, dans une autre avenue de la ville, au quartier Nkafu, encore une autre personne attrapée en flagrant délit de vol a subi la vindicte populaire.
Entre-temps, l'aéroport international de Goma au nord Kivu, toujours fermé 2 mois après l'occupation de la ville par les rebelles de l'AFC M23. Plusieurs sources témoignent que les travaux de déminage auraient commencé il y a quelques jours, ce qui pourrait constituer la première étape pour une probable réouverture. Marceline Kombombala.
Le tarmac est la première étape où le nettoyage ou déminage est effectué et consiste à la détection et à la destruction des engins explosifs disséminés sur le site. Cependant, d'autres mines jonchent encore le sol aux alentours, vu l'ampleur des affrontements ces jours-là, ce qui demeure une sérieuse menace, rendant ainsi impraticable l'accès à la piste. Pendant ce temps, la tour de contrôle, le poumon de toute opération de navigation, quant à elle endommagée, reste non opérationnelle. Si bien que le déminage constitue une étape importante dans la réhabilitation de l'aéroport international de Goma qui nécessite des réparations de grande ampleur pour sa fonctionnalité et pour assurer la sécurité des vols, estime un spécialiste en matière aéronautique. Le dégât causé par cette guerre étant considérable, tour de contrôle saccagé, infrastructures endommagées et bureaux pillés, pour l'instant, l'incertitude plane toujours quant à la reprise des vols.
Toujours au nord Kivu, les enseignants d'au moins 4 subdivisions du territoire de Rutshuru expriment leur mécontentement face au non-paiement de leur salaire pour les mois de février et mars. Ils jugent inacceptable de n'avoir pas perçu jusque-là leur rémunération alors que le gouvernement a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour leur paiement par la Caritas via Mobile Money. Ces enseignants affirment avoir accompli toutes les formalités requises pour le transfert de leur salaire par cette nouvelle voie compte tenu de la fermeture des banques à Goma. Les autorités scolaires provinciales appellent les enseignants à la patience, assurant qu'une solution est imminente. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
L'incompréhension règne chez les enseignants de Rutshuru. Si le gouvernement fait le nécessaire, pourquoi la Caritas tarde-t-elle à payer leur salaire? 2 mois impayés, c'est trop, confie l'un d'eux sous anonymat.
Alors que le directeur chargé de suivi Paix Kinshasa fait savoir que le gouvernement a déjà fait sa part. Nous avons complété les fiches déjà 1 mois sans suite. Nous sommes délaissés. Raison pour laquelle nous, enseignants territoire de Rutshuru, nous vivotons, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Déjà 2 mois, bientôt 3 mois impayés, alors que les autorités ont déjà fait leur part.
En réponse à ces préoccupations, les directeurs de la province éducationnelle du Nord Kivu 1 expliquent que l'équipe de la Caritas était en mission à Inongo. Désormais de retour à Goma, la priorité est la finalisation des paiements par Mobile Money pour les enseignants de Rutshuru et Masisi. Luc Baweza ajoute que la BOA et Access Bank, chargées du paiement des enseignants de Goma et Nyiragongo, paieront également via Mobile Money. La procédure est en cours et ce responsable précise que des notifications ont déjà été envoyées à certains enseignants.
Nous l'avons dit dans les titres, les ministres provinciaux du Tanganyika face à leur devoir de redevabilité. Ils présentent en public les actions qu'ils ont réalisées depuis leur entrée en fonction. Cet exercice démocratique de 2 jours a pris fin ce samedi à Kalemie. Objectif, rendre compte et informer la population sur les actions qui sont concrétisées par le gouvernement provincial du Tanganyika. Paul Munanga.
8 ministres provinciaux du Tanganyika ont répondu à cet exercice démocratique de redevabilité. Ils présentent devant la population les rapports détaillés des actions qu'ils ont réalisées depuis la prise de leurs fonctions. C'est le cas du ministre provincial de la Santé, Action humanitaire et Affaires sociales. Il fait un état des lieux de grandes réalisations et des perspectives de son ministère. Il souligne aussi la nécessité d'augmenter le nombre de médecins spécialistes dans la province. Celui des infrastructures évoque les grands travaux en cours dans la province. En outre, il signale la réhabilitation de la voirie urbaine à Kalemie et les travaux d'asphaltage reliant Kalemie à Manono. Signalons que le gouverneur du Tanganyika a annoncé cet exercice de redevabilité lors de la présentation de son plan d'action provincial défendu devant les députés provinciaux. Christian Kitungwa précise que cette rencontre est une occasion pour avoir une idée sur les réalisations, les réformes, les défis et l'état des lieux de la gouvernance provinciale. Cet exercice démocratique se réalise 6 mois après l'entrée en fonction des membres du gouvernement provincial du Tanganyika.
Merci à vous, Paulin Munanga. Par ailleurs, la population de la province du Kwilu n'a pas encore vu ce qu'elle attend des élus provinciaux depuis le début de cette législature. C'est la faute de l'installation d'un bureau définitif au sein de l'Assemblée provinciale à la suite de l'annulation des élections Massima Nimba pour fraude électorale. Les députés provinciaux sont donc invités à se mettre au travail sans distraction afin de récupérer le temps perdu pendant plus d'une année. Cette déclaration est du nouveau président du bureau définitif de cet organe, délibérant Claude Kumpel. Il a dit vendredi lors de la plénière au cours de laquelle ce bureau a été élu et installé à Bandunduville, nous dit Irène Bomalozolo.
Prenant la parole pour son discours après avoir été installé comme nouveau président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Claude Kumpel, élu du Dauphin, a tout d'abord exprimé ses sentiments de joie avant de remercier ses électeurs. Ensuite, il a entre autres déclaré ce qui suit.
Notre bureau est appelé à travailler durement pour récupérer le temps perdu. Nous avons aujourd'hui notre responsabilité historique d'apporter nos valeurs à la reconstruction de notre province. Il est donc temps de se mettre au travail au lieu de se laisser distraire. Nous devons être rigoureux envers nous-mêmes, en exécution avec conscience, le travail pour lequel notre population nous a élus. Parce que jusqu'à ce jour, notre Assemblée n'a pas répondu aux attentes de notre population, faute d'une mise en place à temps du bureau définitif de notre organe délibérant. Ce ne sont pas des excuses, mais ce sont des faits vrais. Nous devons donc nous mettre au travail, car, dit-on, le travail assure l'indépendance. Le travail, rien que le travail.
Enfin, la session extraordinaire inaugurale, ouverte depuis plus d'une année par le président du bureau d'âge, Oscar Nsaman, a été officiellement clôturée vendredi par le président du bureau définitif. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, Sylvain Mutombo, coordonnateur de la majorité extra-parlementaire et ancien ministre délégué à la Défense, recommande un changement total du gouvernement à l'issue des consultations politiques en cours. Après leur échange vendredi avec le conseiller spécial du chef de l'État, les représentants de tous les regroupements politiques qui sont en dehors des institutions souhaitent que le futur gouvernement soit composé des membres capables d'accepter des sacrifices au même titre que toutes les victimes des affres de la guerre dans l'Est du pays. Un accent doit être mis sur la réduction du train de vie ainsi que du volume de ces gouvernements. On écoute Sylvain Mutombo au micro de Billy Van Lutumba.
Ce gouvernement que nous voulons n'est pas un gouvernement des hommes ordinaires. Nous voudrons un gouvernement réduit à 45 ministres pour répondre à la question du chef de l'État liée à la réduction du train de vie des institutions de la République. Afin d'être dans le même diapason avec nos populations de l'Est qui doivent nous voir, nous tous, faire des sacrifices. Ce gouvernement ne se limitera pas seulement à faire la guerre et à terminer la guerre, mais doit s'assigner aussi d'autres missions pour accompagner la guerre. Donc une armée armée de guerre, une armée professionnelle, une armée industrialisée, une armée de production. Bien entendu, avec les services de sécurité renforcés, avec le projet de service national renforcé dans toutes les 26 provinces, pour que nous puissions avoir un véritable commandement qui pourra amener le commandant suprême à avoir des gens sérieux qui vont agir pour être différents de ceux dont nous avons connu.
Santé. Dans le territoire de Bénin Nord Kivu, au moins 15 cas de rougeole ont été notifiés au cours du premier trimestre à l'orphelinat Tukinge Atima du poste frontalier de Kassin de Loubiria, plus précisément dans la zone de santé rurale de Mutuanga. Selon Desange Maliro, la responsable de cet orphelinat privé, la maladie risque de prendre une allure inquiétante à cause de la promiscuité dans ces centres qui hébergent environ 500 enfants. Elle précise que les malades sont pris en charge par une équipe de médecins qui, malheureusement, fait face à une carence des médicaments. Elle plaide pour une assistance du gouvernement congolais et des ONG humanitaires pour faire face à cette situation. Desange Maliro est jointe par André Kitenge.
Ici à l'orphelinat Tukinge Atima, il y a le problème de la rougeole. Et ça vient de dire, en tout cas au moins un mois et demi, il y avait une fille qui a commencé. Quand je suis allé chez Mundama, ils ont confirmé que c'est la rougeole. Après lui, l'autre. Ça devait vraiment une répétition. Au total, aujourd'hui, c'est 15 qui sont atteints de la rougeole. Au lit, ils donnent au moins 3, bien 4. Alors si l'une est atteinte directement, les trois là, et aussi ils seront atteints. C'est pourquoi, pour honorer vraiment les factures, ça devient un problème. Et c'est pourquoi moi je demande au gouvernement de renforcer les médicaments à l'hôpital général, à l'hôpital La Kassindi, au Wibaché, de renforcer les médicaments. Parce que quand on arrive là-bas, on donne les médicaments. Mais il y a des maladies, parce que ce sont des centres qui reçoivent des pauvres, là où il y a la gratuité. Donc il faut le gouvernement et les ONG qui se chargent des médicaments, Médecins sans frontières, UNICEF, Tukinge Watoto, Croix-Rouge, de renforcer les médicaments au niveau de l'hôpital général qui reçoit les opprimés, les pauvres.
La solution pour résoudre la crise sécuritaire qui secoue l'Ituri passe par la prise de conscience des filles et fils de cette province pour arrêter les violences. C'est ce que pensent les femmes des différentes entités de Djougou et d'Irumu. C'était à l'occasion de la journée de vulgarisation des droits de la femme et de la jeune fille organisée vendredi par la section genre de la MONUSCO à Bogoro. Pour ces femmes, il est temps de revenir aux bonnes relations que prônaient leurs ancêtres dans le cadre des cohabitations pacifiques. Jean-Claude Lokidile nous en parle.
Ce sont plus de 100 femmes venues des entités de Walendu Tati, Walendu Bindi et Bema Sud qui ont pris part à cette activité à laquelle se sont jointes des autorités coutumières locales. Bien avant cet échange, elles ont ensemble exhibé des danses traditionnelles à travers lesquelles chaque communauté a passé des messages de paix, comme l'explique cette dame originaire du secteur de Walendu Tati. Ce ne sont pas des étrangers qui vont ramener la paix durable chez nous, non. Si ce ne sont que nous-mêmes, même si on ramène l'armée ougandaise comme c'est le cas actuellement, la solution passe par nous tous, Congolais, pour restaurer la paix. Le vivre ensemble est l'une des valeurs qui caractérisait nos ancêtres qui vivaient en harmonie avec les populations des autres entités, martèle une autre dame, issue cette fois de la communauté des Bahama Sud.
On vivait dans la cohabitation pacifique. Nous voulons encore que ces habitudes continuent jusqu'à présent, que l'amour revienne encore.
Le chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, qui a pris part à cette rencontre, a encouragé les habitants de l'Ituri à mettre de côté leur ego pour donner la chance à l'Ituri de se développer au regard des richesses dont regorge cette province. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, la campagne pour la présidentielle du 12 avril 2025 a démarré hier samedi. Bien que tous les candidats n'aient pas encore jeté leurs forces dans la bataille, le président de la transition Brice Clotaire Oligui-Nguema a rassemblé ses partisans lors d'un meeting dans un stade de Libreville. Et au Kenya, un slogan est source de controverses. Le chant « Ruto must go » appelant à la démission du président William Ruto est né lors des manifestations antigouvernementales en 2024. Mais il continue à être scandé dans des bars et rassemblements. C'était le cas notamment lors d'un match de football à Nairobi le dimanche 23 mars. Un slogan pointé du doigt, c'est jeudi 27 mars par le chef d'état-major des armées qui a mis en garde contre un risque d'anarchie. Depuis, les propos du militaire ont été commentés en masse et la polémique enfle.
L'invité.
La situation sécuritaire se dégrade un peu plus chaque jour dans le territoire des Djugwanituri. Depuis que les troupes de l'armée ougandaise combattent la milice Kodeko dans la région de Fataki, la tension est montée d'un cran entre certaines communautés du territoire des Djougou. Le président de l'UNADI, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, appelle au calme. Michel Meta revient sur la situation dans cet entretien avec Sadiq Aboubakar.
Michel Meta, bonjour.
Bonjour.
La crise sécuritaire dans le territoire des Djougou a tendance à se transformer à une crise communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, avant d'adresser mon message comme président de toutes les communautés de l'Ituri, il fallait vous rappeler que la violence dans la province de l'Ituri où les tensions ont commencé bien avant, avec l'avancée de M23 à un moment donné, et puis la présence de UPDF, leur entrée dans la ville de Bounia, et aussi leur entrée dans les territoires de Maghi a créé effectivement une tension. Vous avez vu des messages de certaines communautés qui... Les unes ont écrit, les autres ont répondu. Et ça veut dire que ça crée déjà ces petits soucis-là entre les communautés.
Il y a quelques semaines, l'UNADI, vous avez organisé un dialogue intercommunautaire. Quel en était le résultat?
Nous avons organisé un pourparler entre les Ituriens. Et ce pourparler ne prenait pas toutes les communautés de la province de l'Ituri. On avait plus focalisé l'attention dans les territoires de Djougou, en prenant plus les communautés qui sont directement en contact avec les violences dans les territoires de Djougou. Et c'est dans ces quatre-là qu'on avait tenu cette activité pendant 2 jours, le 3 et le 4. Et le contenu de ces rapports existe. Je pense que c'est un rapport encore partiel parce que l'une des communautés s'était retirée, avait évoqué certaines raisons. Par exemple, la neutralisation de tous les groupes armés dans l'Assemblée de la province. Il y avait une commission ad hoc qui a été constituée. À la fin, ils ont accepté de rentrer sur la table de pourparler et que nous allons continuer le travail.
Alors, vous avez évoqué une certaine tension entre quelques communautés des Djougou, où effectivement il y a depuis quelques semaines des combats permanents entre UPDF, l'armée ougandaise et une milice locale. En tant que président de l'UNADI, quel message vous adressez à toutes ces communautés-là, mais aussi d'une manière générale à toutes les communautés de l'Ituri par rapport à cette tendance?
Je crois la première des choses, il fallait d'abord condamner ces violences qui se vivent dans le territoire de Djougou et particulièrement à Fataki. C'est ce qu'ils n'avaient pas souhaité et que de l'autre côté, il faut voir aussi la présence de UPDF, leur entrée avait posé déjà un problème. Et nous avions demandé à ce temps que le gouvernement, soit national, soit provincial ou soit l'armée, puisse communiquer sur l'enjeu clair de cette mutualisation de forces. Ça n'a pas été fait. Et voilà, nous nous retrouvons devant un incident à Djougou. En même temps, nous sommes en train de demander qu'on puisse neutraliser tous les groupes armés pour que toute la population de l'Ituri retrouve son calme. Alors, tous ces éléments ont créé trop de problèmes. Nous avons reçu le commandant,
le chef d'état-major
général adjoint en charge de renseignement et des opérations, qui est en train de faire un travail avec toutes les forces vives, travailler pour éclairer la lanterne de la population. C'est sur ce point que nous demandons à la population d'être calme, de donner confiance à notre gouvernement, à travers notre armée. Je crois que nous devons continuer à soutenir notre armée et toutes les options qu'ils prennent pour l'intérêt de notre population, nous devons appuyer ces initiatives. Le moment est venu pour que l'armée prenne le dessus sur les groupes armés et que chaque groupe armé comprenne que ils ne peuvent pas protéger leur communauté, c'est plutôt l'État qui peut protéger les communautés. C'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Ça veut dire que personne ne peut prétendre prendre l'arme pour protéger sa famille, ses enfants, ses frères, c'est inacceptable.
Pour terminer, Michel Meta, quel message à ces communautés qui lancent des messages ou des déclarations quelquefois à tendance provocatrice?
Je l'ai dit au départ, ce qui est très important pour nos communautés de l'Ituri, c'est d'abord construire cette unité et cette cohésion, on sait, de nous tous qui sommes peuple de l'Ituri. Et le deuxième élément, ce sont les groupes armés qui vivent dans nos communautés. Ces groupes armés ne doivent pas aussi prendre les communautés comme leur béquille pour faire le bêtise. Nous devons construire la paix maintenant pour la province de l'Ituri.
Michel Meta, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Notre invité, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement des luttes de l'Ituri, répondait aux questions de Sadiki Aboubakar. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Jacques-Yves Moulima et mis en onde par Pierre Diassinois. la présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci d'avoir été les nôtres et bonne condition d'écoute de l'émission Okapi Sport avec Vanessa Nkongolo Nkongolo.